Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé est préparé et animé par la pasteur Ticia Esbanti, pasteur de l'Église protestante unie de Nîmes, paroisse Nîmes Sud-Ouest. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour et bienvenue à vous sur les ondes. À vous qui croyez en Dieu, à vous qui doutez, à vous qui cherchez peut-être, à vous qui avez soif de comprendre, à vous qui êtes fatigué de chercher, à vous qui êtes membre d'une communauté de foi et à vous qui êtes sans église fixe. Oui, bienvenue. Bienvenue pour ce temps de repos, ce temps où l'on se repose de tous les jugements. Ce temps qui nous rappelle que le sens de notre vie est entre les mains de Dieu. En ce 15 décembre, nous ouvrons la porte du troisième dimanche de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est celui de l'attente active, cette période où l'on se prépare à recevoir celui qui vient. C'est le temps où tout est encore sous la terre. C'est le temps du labour, de la préparation, de la maturation et de l'espérance. Oui, le temps de l'Avent nous rappelle qu'il faut du temps pour se laisser travailler par l'Évangile, pour se construire dans le secret et dans le silence. Alors qu'en ce troisième dimanche de l'Avent, nous puissions nous laisser ouvrir, entamer, retourner par le soc de l'Évangile, afin que puisse naître en nous le Christ, celui que nous attendons et qui est, pour ce monde, la grâce et la paix de Dieu notre Père. Nous écouterons le cantique de l'Avent qui s'appelle « Aube nouvelle » dans notre nuit. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. Si vous avez le recueil, vous pouvez trouver ce cantique qui s'appelle « Aube nouvelle ». Et nous prions. Christ, lumière du monde, parole profonde, tu es la joie qui relève, tu es la vie qui passe l'ombre, tu es la force du pas suivant, tu es la racine et l'appel, l'ancre et le large, la terre promise et le voyage. Viens guérir nos somnolences, viens nous réveiller de toutes nos absences. Christ, lumière du monde, parole profonde, dans la paille des jours, dans les failles de l'amour, dans tout ce qui est lourd. Que ta paix nous inonde. Christ, lumière du monde, parole profonde. En toi nous recevons la vie, le mouvement et l'être. Tiens-nous à jamais en ta présence, où tout prend sens. Et traverse-nous du souffle, où toute détresse devient promesse. Christ, lumière du monde, parole profonde. Amen. Ce matin, nous écouterons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 19 à 28. Voici le témoignage rendu par Jean lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites pour lui demander « Mais qui es-tu ?» Jean avoua et d'un aveu sans détour, « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent, « Alors qui es-tu donc ? Est-ce que tu es Élie ?»« Non, répondit Jean, je ne le suis pas. » « Est-ce que tu es le prophète ? » dirent-ils. « Non, répondit-il. » Ils lui dirent alors, « Mais qui es-tu donc ? » Nous avons une réponse à faire à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi ? Jean déclara, « Je suis la voix qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin pour le Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Les hommes qui l'interrogeaient étaient des envoyés des pharisiens. Ils questionnèrent et demandèrent encore, « Mais si tu n'es pas le Christ ?» Ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu ? Jean leur répondit, « Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il arrive après moi, et moi je ne suis pas digne de dénouer ses sandales. » Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, là où Jean baptisait. Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu ? On se croirait dans un commissariat de police. Nom, prénom, date de naissance, nationalité, situation familiale. Le Christ n'est pas encore là, que déjà ça coince. On s'en prend à son précurseur. Personne ne le connaît. Et il n'a rien de distingué pour retenir l'attention. Son allure n'est-elle pas étrange ? Il y a deux autres évangiles qui disent à son sujet qu'il était vêtu d'un vêtement en poil de chameau et qu'il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Et puis sa voix, elle n'est pas comme celle de tout le monde. Il ne parle pas, cet homme, il crie. Et puis enfin, il vit à l'écart des humains, entre fleuves et montagnes. Alors oui, on le soupçonne, on enquête. On fronce les sourcils, on veut savoir qui est cet homme. Et la méfiance des autorités à Jérusalem semble justifiée parce que dans la Palestine des années 30, il y a des mouvements de contestation et il vaut mieux contrôler un peu plus que pas assez. Qui es-tu ? Sommé de décliner son identité, Jean se présente comme celui qui en est dépourvu. À la question « Qui es-tu ?», il répond « Je ne suis pas. » Je ne suis pas le Christ, etc. Et les gens qui l'interrogent, ce sont des prêtres, des lévites, des pharisiens, c'est-à-dire des gens religieux, des gens qui classent, des gens qui savent. Et par exemple, d'ailleurs, ils savent tout sur Dieu. C'est incroyable, mais c'est comme ça, ils savent tout. Et pour interroger l'embarrassant personnage, parce que ce Jean, il est quand même très curieux, très excentrique. Et donc pour l'interroger, eh ben, ces gens, ils ont la liste de réponses toutes prêtes. Une case pour le Christ, une case pour Élie, une pour le prophète, rayer la mention inutile. Mais Jean le Baptiste donc, refuse de répondre à ce qui s'apparente à un interrogatoire. Et il leur dit en fait, peu importe mon identité, il ne s'agit pas de moi, mais d'un autre. Et cet autre, eh bien il n'entre pas dans aucune de vos cases. Quelque temps après, Jean le Baptiste sera jeté en prison, puis décapité. Ils ont trouvé la solution. C'est tellement facile. Il suffit de mettre une croix sur celui qui gêne. Qu'on se rassure, les humains continueront à dresser des listes et des croix au fil du temps et continueront à interroger, à juger ceux qui crient la vérité dans le désert. Et ceux qui entreront en résistance seront toujours peu nombreux. C'est déjà ce qu'annonçait Jésus lorsque, quelques chapitres plus loin, il dira à ses disciples, lorsque certains commencent à douter sérieusement, il leur dira « Et vous, ne voulez-vous pas partir, vous aussi ?» Le rôle de Jean-Baptiste, celui qui annonce la venue de Jésus, a souvent été réduit à celle d'un présentateur de journal télé. Porte-parole, désignant quelqu'un d'autre que lui-même. Mais ce Jean-Baptiste, depuis sa résistance à être enfermé dans une identité, dans l'ombre de Jésus, là où il est donc placé, qu'est-ce qu'il a à nous dire en fait ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? À cette question, Jean-Baptiste répond avec une audace tranquille. Il résiste au contrôle d'identité. Il ne donnera même pas son nom. Les pharisiens, qui sont les gardiens ombrageux de la tradition religieuse, n'ont qu'une idée en tête. Remplir leurs fiches. Alors ils continuent, ils insistent, Mais qui es-tu donc? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Et au lieu d'une réponse administrative, Jean-Baptiste cite le prophète Ésaïe. Et il dit « Je suis la voix qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. » Les pharisiens connaissent leur classique, et ce vieux passage des Écritures n'a pas de secret pour eux. En plus, ils savent déjà tout, je vous l'ai dit. Mais comme ils savent tout, eh bien, il ne faut aucun lien avec l'actualité, leur actualité. Ils sont déconcertés par cet homme du désert, qui est décidément résolu à être libre comme le vent. Et ces enquêteurs, ils arrivent en bas de la page blanche de leur enquête. Et ils disent « Mais pourquoi tu baptises ?» Et Jean répond « Moi, je baptise dans l'eau. » C'est étrange, ce n'est pas une réponse. Jean ne dit pas pourquoi il baptise, ni qui il est. Ben oui, parce que pour lui, tout simplement, l'essentiel est ailleurs. Mais pour ses interlocuteurs, il y a de quoi les agacer au plus haut point. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie. Je suis une voix, la voix qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. Voilà ce Jean-Baptiste déconcertant qui a pour mission de dire « Mais c'est pas moi qui suis important. » Et il ajoute « Il vient après moi celui dont je parle, celui que je désigne. Je ne suis d'ailleurs même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. » En fait, Jean le Baptiste, c'est un passeur. Il annonce, il indique la direction. Et puis il se retire, il s'efface. Quelle belle démarche, en fait. Est-ce que c'est fréquent chez les croyants ? D'annoncer, de témoigner, d'indiquer la direction et puis de se retirer, de s'effacer. C'est à méditer pour chacun d'entre nous. Les autres évangiles nous racontent que Jean attire les foules. Nombreux sont ceux qui viennent écouter ce prédicateur du désert qui invite ses auditeurs à changer de comportement. Et beaucoup se font ensuite baptiser par Jean dans le fleuve du Jourdain. Mais dans sa prédication, Jean le Baptiste ne cesse de renvoyer au Christ Jésus. Jamais à lui-même. Il se fait petit devant celui qui l'annonce. Il n'attend pas de gestes compensatoires. Je ne suis même pas digne de dénouer ses sandales. Voilà une attitude bien à l'opposé de notre fréquente recherche de reconnaissance. Lui, il n'en a pas besoin. Et je trouve que dans la conduite qu'il a, Jean le Baptiste préfigure le comportement de Jésus. Parce que Jésus, lui, passera en effet son temps à montrer la direction de Dieu le Père. Et puis, il s'effacera dans le tombeau. Il vient après moi, dit Jean. Je ne suis pas digne de dénouer ses sandales. Je trouve que c'est une manière dont tout croyant, s'il veut suivre le Christ, pourrait s'inspirer dans sa relation aux autres. L'apôtre Paul dira plus tard aux chrétiens de Philippe « Ayez donc assez d'humilité pour considérer les autres supérieurs à vous-même. » C'est une invitation à nous dépréoccuper de nous-mêmes, à nous décentrer. Et ça nous libère de l'obsession identitaire que nous avons parfois de savoir qui je suis en tant que. Nous sommes parfois tellement obnubilés par nous-mêmes. Là, il y a une invitation à s'en détacher. Et ça nous permettra peut-être de mieux écouter, de mieux accompagner tous ceux et celles qui sont privés d'identité. Et puis Jean dit à ses interlocuteurs, il dit ceci, « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Eh bien, je trouve qu'on a là la plus belle et la plus courte prédication sur Dieu. J'en connais pas d'autre. Malheureusement, elle passe souvent inaperçue, comme Jean-Baptiste lui-même d'ailleurs. Parce qu'à force d'entendre ce passeur, ce prédicateur du désert qui nous dit « je ne fais que passer », eh bien nous aussi on passe vite au chapitre suivant. Et on l'oublie. C'est dommage. Parce qu'il dit quelque chose de magnifique dans ces quelques mots. « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Tout est dit. Premièrement, dans ces quelques mots, il nous est dit que l'essentiel est là, au milieu de nous, et non pas ailleurs, non pas dans le ciel ou au-delà des mers. Car on dirait alors, qui va nous le chercher? La présence de celui infiniment plus grand que nous est là, au creux de nos vies. C'est ce qu'il dit Jean, en disant « au milieu de vous, il se tient, celui que vous ne connaissez pas ». Il est là, au milieu, alors fini l'ésotérisme qui cherche le divin partout. Fini la gymnastique ou les étoiles ou l'alchimie ou le désert où on cherche le divin, l'esprit. Dieu est là, au milieu de nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que dit Jean-Baptiste dans cette petite prédication de quelques mots, c'est que la présence de Dieu ne s'installe pas. Mais elle se déplace, elle se tient, au sens où le texte grec nous dit que cette parole, cette présence, campe. C'est un campement. La parole a planté sa tente parmi nous. C'est ça que veut dire le mot « se tenir », qui traduit de manière un petit peu faible en fait. Dieu campe et plante sa tente. Il se déplace donc avec le peuple. Avec nous, il n'a pas de domicile fixe, il n'a pas d'adresse, il bouge avec nous, il se déplace comme les Hébreux à travers le désert à l'époque où ils devaient traverser cette période pendant 40 ans pour quitter l'Égypte. troisième chose, c'est que ce quelqu'un, dit Jean-Baptiste, eh bien, vous ne le connaissez pas. Alors bon, au premier abord, on va dire, ben oui, c'est sûr, c'est normal. On est au début de l'évangile. Jean-Baptiste prépare le terrain, il s'adresse à des Juifs qui n'ont pas encore rencontré Jésus, qui ne savent même pas qui c'est. Ils ne peuvent pas le connaître. Donc Jean leur dit, ben vous ne le connaissez pas. Mais en fait, il me semble que nous sommes concernés, nous aussi. Au lieu de dire, on sait, on connaît la suite de l'histoire, il s'agirait plutôt de se dire que cette parole de Jean nous concerne dans notre vie. Parce que je pense qu'il est possible de risquer de ne plus avoir aucun regard neuf sur l'Évangile. Parce que on connaît trop. Mais oui, on a entendu ce prêche, on connaît ces histoires, on nous l'a déjà raconté. Plus de regard neuf sur l'Évangile. Sauf si on accueille et on considère que cette parole de Jean-Baptiste, elle est aussi pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Lorsqu'il dit « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». Moi, j'ai envie d'accueillir cette parole pour ma vie d'aujourd'hui, ma vie de foi, ma vie de témoin. Il me semble que Jean-Baptiste nous invite à reconnaître qu'en fait, nous ne savons rien. Et il nous rappelle par là aussi qu'il n'y a pas de mainmise sur Dieu et sa parole. Comme certains qui disent « Je connais la parole de Dieu, c'est très clair, voilà ce qu'elle dit. » Eh bien non, ce n'est pas clair. Je ne la connais pas si bien. En fait, peut-être que je ne la connais pas. Alors vous voyez, cette parole de Jean, je la répète, « Au milieu de vous se tient, se dresse, au milieu de vous campe celui que vous ne connaissez pas. » Eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est même la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Parce que nous voilà, invités à nous tenir, comme Jean le Baptiste, sur le seuil de l'Évangile, à la première page, en posant un regard tout neuf sur la Bible, sur Dieu, sur nous-mêmes et sur les autres. En effet, quoi de plus beau que de se tenir ainsi comme un nouveau-né, ayant tout à découvrir, à connaître, à comprendre. Quoi de plus beau que de se laisser conduire dans la joie émerveillée d'un nouveau matin qui se lève sur un champ rempli de silence et de blancheur lorsque la neige est passée pendant la nuit. Tout est neuf. Tout est nouveau. Amen. Je vous invite à la prière. « Seigneur Dieu, Père du ciel et de la terre, que vienne le monde où la justice réchauffera la terre comme un soleil d'été. Que vienne le temps où l'amour et la miséricorde féconderont les cœurs comme la pluie après l'orage. Car dans nos vies, comme en ta présence, comme en ta création, soleil et pluie, chaleur et fraîcheur sont également signes de ta présence. Que tes saisons soient faites, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos plaintes et nos soupirs lorsque le temps ne correspond pas à nos désirs. Ne nous induis pas en protestation contre les nuages et les averses lorsque nous aimerions des jours clairs, ni contre le soleil et la chaleur lorsqu'ils dessèchent nos champs et nos vies. Mais délivre-nous de nos angoisses, de nos égoïsmes et de nos calculs. Car c'est à toi qu'appartiennent le soleil et la pluie, les jours clairs et les jours d'orage, le temps du ciel et le temps des humains, hier, aujourd'hui et demain. Amen. Et voici quelques paroles d'envoi pour la route. À la suite de Jean le Baptiste, nous sommes invités, nous aussi, à dire ce qui nous anime à tous ceux qui espèrent rencontrer Dieu. Voici, et c'est une prière que j'ai trouvée dans un tiroir il n'y a pas longtemps. Dis-leur ce que tu sais de lui. Dis-leur ce que le vent dit aux rochers, ce que la mer dit aux montagnes. Dis-leur qu'une immense bonté pénètre l'univers. Dis-leur que Dieu n'est pas ce qu'il croit. Il est un festin partagé où chacun donne et reçoit. Dis-leur qu'il est le joueur de flûte dans la lumière de midi. Il s'approche et s'enfuit, bondissant vers les sources. Dis-leur son visage d'innocence, son clair-obscur et son rire. Oui, dis-leur qu'il est ton espace et ta nuit, qu'il est ta blessure et ta joie. Mais dis-leur aussi qu'il n'est pas ce que tu dis et que tu ne sais rien de lui. Amen.
Voici maintenant une annonce. Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette Église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou en envoyant un chèque à l'Église protestante unie de Nîmes, à la Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par la pasteur Ticia Esbonti, pasteur de l'Église protestante unie de Nîmes, paroisse Nîmes Sud-Ouest. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.